est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
Ce n'est toujours pas la voix de Solène Etienne, mais j'ai l'immense plaisir de la remplacer pendant son congé maternité. Donc c'est Thomas et face à moi, Caroline Courtel. Bonjour Caroline.
Bonjour Thomas.
Tu es la présidente et fondatrice de WeDoCom. Tu es la Sista des Limélois qu'on a eu le plaisir de recevoir, le CTO et cofondateur de Loomaps. Quand je t'ai demandé ce que WeDoCom pourrait être si c'était une musique, tu as choisi... Will Kenmiski, clap your hands. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance. On se met dans l'ambiance. Je ne connaissais pas, c'est super.
Très, très peu connu.
C'est ça l'ambiance WeDoCom, le matin, la journée.
Ouais, c'est que du plaisir.
Alors pourquoi cette musique ?
Je me la suis mis beaucoup dans mes vies précédentes, avant des moments... un peu stressant de ma vie professionnelle. Ça m'aidait à prendre le temps de profiter du moment. Et je crois que j'ai monté WeDoCom un peu sur cette mesure, c'est-à-dire que c'est lent au démarrage et c'est un rythme facile à suivre finalement. Donc c'est que du plaisir tous les jours, quoi.
Tu l'as dit, il y a eu des moments, mais ça je crois que c'est la vie de tous les entrepreneurs, hein, des hauts, des bas, des montagnes russes. C'est pas ta première boîte d'ailleurs.
Non, j'ai toujours été plutôt à créer mes projets. C'est une évolution en fait de deux précédentes boîtes. Et oui, WeDoCom, c'est une belle évolution. Du coup, j'ai tout mélangé pour en faire une vraie société.
C'est-à-dire qu'à chaque entreprise qu'on crée, on exclut tout ce qui n'a pas marché, tous les sujets de friction. On garde que l'essence de ce qui fonctionne, de ce qu'on aime, pour arriver à peut-être l'entreprise finale qui est le résultat de tous les apprentissages.
Ouais, c'est ça. On se renouvelle aussi, mais c'est un résultat après... Une troisième boîte, je pense que c'est la troisième, c'est la bonne, on va dire ça.
Alors, racontons ce qu'est WeDoCom.
Alors, WeDoCom, c'est une société de conseil, agence de com, hein, c'est entre les deux, qui accompagne les entreprises, surtout les services de communication interne et RH, dans la mise en place d'outils digitaux. La transformation digitale a évolué dans tous les services depuis longtemps, mais le service de com interne était un petit peu le dernier. Donc on a monté des services.
C'est pas toujours là où on met le plus de moyens, et
non.
Pourtant.
Et pourtant, maintenant, on a bien compris qu'il fallait. Donc on accompagne les services de com interne.
Est-ce qu'il y a des secteurs où on est encore un peu à la traîne en la matière?
On est dans tous les secteurs d'activité de manière assez égal, mais c'est par vague. On a fait les assurances cette année, en début d'année. Le BTP pendant le Covid, ouais. Beaucoup. Et puis là, c'est le service qui prend. Donc mais tous les secteurs sont concernés.
Oui, c'est plus boîte par boîte, où il y en a qui s'engagent et d'autres pas.
Oui, mais même le public, il va à fond. Donc non, il y a vraiment tous les secteurs.
Concrètement, ça veut dire quoi digitaliser la com pour, j'imagine, plutôt grands groupes, PME, scale-up?
Ça veut dire donner les moyens aux entreprises, donner les moyens aux salariés et surtout aux services de com pour qu'ils puissent toucher l'ensemble des collaborateurs avec un outil digital et que ce soit pas juste du papier ou juste du mail, que ce soit aussi par tous les moyens, les devices possibles.
Ça, bon, on a forcément tous eu à réfléchir à la digitalisation, aux échanges en remote pendant cette période qu'on a vécue, avec du coup les plus, les moins. Comment on arrive à trouver le bon équilibre entre, oui, il y a besoin de pouvoir échanger de manière plus fluide, plus rapide, de partout, le tout le temps se questionne, et en même temps on a besoin d'humains, d'échanges parfois informel à la machine à café.
Oui, alors ça remplace pas, c'est sûr, mais il y a quand même des secteurs d'activité avec des employés sur le terrain qui n'ont rien du tout, qui n'ont pas d'identité numérique, comme on dit, et qui n'ont pas besoin de mail, et surtout pas besoin de mail, en fait. Donc, mais par contre, ils ont des applications en perso. Ils ont l'habitude d'aller chercher de l'information dans des applications en perso. Et je pense que c'est surtout eux qui ont... qui sont encore un peu délaissés et qui n'ont pas du tout besoin de lire des informations de com comme des personnes peut-être au siège ou dans des bureaux. Et pour autant, ils ont besoin de faire partie du groupe. Donc, c'est surtout ces sujets-là qu'on traite.
On a dans certaines boîtes un vrai sujet, je pense, au service de com interne, parce qu'on fait un intranet, on fait plein de choses, mais pour faire venir les gens à l'information, on a beau l'envoyer, la mettre à disposition, des fois c'est un sujet où t'as que 30-40%, des fois c'est même des bons scores selon les boîtes, des publics qui vont regarder et se tenir informés.
Non, mais en fait l'essentiel c'est surtout de comprendre ce qu'ils ont besoin comme information. Donc nous on a, c'est notre valeur chez WeDoCom. On va pouvoir conseiller parce qu'on est des doueurs. Donc, on va mettre en place l'intranet. Donc, on va comprendre pourquoi ils peuvent marcher, être adoptés, pas adoptés. Et donc, on propose une étude terrain à nos clients. Et on va écouter le terrain. C'est notre, surtout une écoute avant tout qu'un audit. Et on va essayer de comprendre comment le collaborateur consomme l'information aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a besoin de quoi il a besoin dans son quotidien? Et comment est-ce qu'on va trouver des sujets qui vont faire qu'il va aller sur l'intranet?
Vas-y.
Non, et c'est intéressant parce que souvent c'est le menu de la cantine, qui fait que.
C'est ça. Quelle est la bonne pizzeria à côté?
Non, mais oui, ah ouais. En fait, c'est des infos un peu pro-perso, que j'appelle ça comme ça, mais qui va concerner vraiment le collaborateur et pas forcément la société avant tout. Et puis ensuite, il va, à partir de là déjà, peut-être télécharger l'application, même sur son téléphone perso, parce qu'il va essayer d'aller chercher peut-être même une offre d'emploi un dimanche après une réunion de famille pour son cousin qui est à table avec lui. Donc ça va le faire télécharger l'application et puis ensuite il va naviguer à travers des informations dont il a besoin lui sur ses pauses et puis des informations qui sont plus corporate.
Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, on parle de beaucoup de pénuries avec plus de demandes que d'offres. Hein. Je sais plus dans quel ordre c'est, pardon. Mais en tout cas, plus d'offres d'emploi que de demandeurs et de talents. Et du coup, c'est un vrai sujet, ce travail en interne, aussi pour créer les ambassadeurs, déjà pour pas perdre les talents et ses collaborateurs, mais aussi parce que ça va être demain peut-être les ambassadeurs. Et un autre écueil que je vois parfois, c'est typiquement si on cherche à embarquer des cols bleus, des gens sur le terrain, et pas que des cadres dynamiques, un peu à l'image de ceux souvent qui construisent le contenu interne. Enfin, t'es au siège, t'es à la com. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens de terrain, au-delà des informations ou des sujets qu'on a envie de porter souvent à la com interne ou au marketing?
Ils attendent qu'on leur facilite un peu le quotidien et puis qu'on les écoute aussi. Souvent, c'est l'occasion de les mettre en avant. Et puis, qu'on les écoute au quotidien déjà, avant de leur parler. Beaucoup ne connaissent pas le chiffre d'affaires de leur entreprise, hein. C'est même presque 100% en général. Mais qu'ils puissent échanger entre eux, voir ce qui se passe, être considérés, je pense que c'est le numéro un. Et puis ça passe par, ce que je disais tout de suite là, c'est ça passe par eux en termes perso. Ce qui est souvent très RH du coup, parce que les RH font beaucoup de choses pour l'ensemble des collaborateurs, mais c'est souvent pas forcément mis en avant. Donc c'est l'occasion aussi d'avoir une place pour les RH avant tout.
Je reviens sur WeDoCom, l'entreprise, la marque créée en quelle année ?
2018,
donc ça fait 4 ans. On a une question à Adélie, ton bro du Next 40. Mais avant d'y répondre, quelle est la situation actuelle de la boîte et peut-être sa trajectoire ?
La situation actuelle de la boîte, donc c'est la fin de la quatrième année, ouais. Fin de fiscale en juin, là. On a passé la troisième année assez à l'aise sur une croissance organique, que de l'investissement de temps. Voilà, donc je suis assez fière de ça. Et puis la quatrième année, c'est est-ce que j'accélère vraiment ou pas, comment j'accélère et comment je fais en sorte que les piliers soient solides. Là, je suis vraiment dans ce questionnement-là.
Avant la question d'Eli, tu disais est-ce que j'accélère ou pas. C'est toujours une question en tant qu'entrepreneur où sa boîte, c'est son risque et on veut pas mettre à mal là, en l'occurrence 4 ans d'activité où ça fonctionne. Est-ce qu'on grandit tranquillement mais sûrement, est-ce qu'à un moment on met un vrai coup d'accélération et en même temps avec la prise de risque qui va avec de gérer la croissance, de gérer la trésor, comment chemine tout ça?
Quand on commence à bien dormir, déjà on se dit qu'on va en profiter un peu. Je pense que ça fait le tout. Puis après,
les nuits étaient courtes au départ.
C'est les Noëls étaient longs.
Parce qu'il y a trop de travail ou parce qu'il y a la charge mentale qui des fois te stresse, te questionne.
Ben, en fait, moins on a, plus on est créatif. En fait, c'est une feuille blanche.
C'est gentil.
Permet de... Non, mais je pense que c'est ça. Et donc, plein d'idées, plein de possibilités fait qu'on ne dort pas forcément bien. Ce n'est pas forcément un souci financier ou autre, parce que...
Oui, c'est aussi une ébullition dans la tête.
C'est une ébullition
je pourrais faire ça, je pourrais aller là.
On a une idée au départ et puis finalement, on en a plein. Et puis, on se rend compte 4 ans après que l'idée de départ est... Ouais, on y est arrivé, mais on est passé par plein d'idées entre-temps. Et c'est ça qui empêche de dormir plus que tout.
Je voulais envoyer la question d'Eli. À chaque fois, j'ai envie de tirer le fil. Mais on va écouter la question d'Eli.
Vous avez un message.
Caroline, à quand le statut de licorne pour WeDoCom?
Lui, il veut que t'accélères.
Ah ouais, ça m'a. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, ça y est, je vais le faire. S'il me le dit, c'est que je vais le faire. Ça m'a vraiment donné envie qu'Eli me le dise comme ça. Et puis finalement. J'ai envie que ça se fasse de manière vraiment organique. Enfin, j'ai envie d'une croissance saine avec tout ce que je vois. Je me dis que j'ai de la chance d'avoir pu amorcer quelque chose qui aujourd'hui
est stable.
Est stable et je veux rester là-dessus. Ça n'empêche pas d'un jour être une licorne, mais j'ai eu des moments où j'ai voulu accélérer. Et j'ai eu des propositions d'argent plusieurs fois.
De rachat, tu veux dire?
Les deux. On m'a proposé plusieurs fois d'investir dans ma boîte. On m'a proposé aussi de la racheter plusieurs fois. Donc d'investir différemment, parce que je sais que quand on rachète, on y reste quand même un petit peu. Et du coup, ça tente. Enfin, on se dit, bon, allez, je vends tout et je vais faire autre chose ou pas. C'est pas le moment.
On a un autre podcast, je sais pas si tu le connais, mais qui s'appelle Cash Out sur les entrepreneurs qui racontent leurs exits en musique d'ailleurs. Et toujours cette question de quand tu refuses, pourquoi tu refuses, est-ce que tu le fais parce que t'as encore trop de choses à faire dans la boîte en question, t'as dit pas maintenant, mais peut-être demain.
Ouais, alors je sais, moi
pourquoi
je pense
t'as
que...
refusé, c'est.
Alors, j'ai pas peur de l'après, parce que j'ai plein de projets en même temps. Ça, c'est pas un souci. J'ai refusé parce que j'avais fait tout le plus dur et que je pouvais maintenant en profiter.
Les fameuses nuits qu'on peut enfin prendre.
Ouais, et puis quand on démarre de zéro, on redevient rien vis-à-vis de plein de monde. Alors, c'est pas une posture, parce que ça m'est égal, mais tout est plus dur quand on a rien. Et donc, il faut travailler pour pouvoir avancer, mais c'est par l'effort et par le travail qu'on y arrive. Et donc, quand ça commence à fonctionner, alors ça, c'est le moment que c'est le plus compliqué pour moi, parce que c'est pas, je préfère créer que gérer. Mais on trouve des créations dans la gérance aussi, hein, donc aussi. C'est pas.
Disons que c'est pas toujours la même adrénaline que celle des débuts.
C'est ça.
Ouais. Tu disais, je sais pas à quel point on peut tirer le fil, mais je trouve ça super intéressant, c'est à quel point en repartant de zéro, pour certains, évidemment pas pour tous, on redevient rien. Du coup, je présume que tu parles d'un écosystème entrepreneurial où on est. C'est quoi? C'est le fait de plus être visible. C'est des gens qui du coup s'arrêtent plus pour te saluer. C'est.
Non, c'est. J'ai été dans mes premiers challenges de deal. J'ai traversé. Je crois que j'étais en Belgique et j'étais face à tous mes anciens concurrents, mais avec ma boîte. J'ai dépassé tout le monde. J'ai été sur une boîte, une grosse boîte de plus de 60 000 personnes qui était et j'étais shortlistée. J'étais en finale, mais au final ils m'ont dit, enfin ils ont eu peur parce que j'étais encore trop petite en termes de société. Et donc c'est là qu'on se dit le savoir on l'a, on est choisi, mais c'est une question
de taille,
de risque, ouais. De... Ouais, face à des gens qui, de toute façon, ils sont dans une grosse structure, ils ont tout, et donc c'est, voilà, c'est.
Il y a cet adage, je sais plus de qui il est, mais qui dit, je me ferai pas virer en choisissant IBM. C'est cette idée que bon,
vrai,
au pire,
si
le projet foire, je pourrais toujours me raccrocher au fait que j'avais pris une boîte connue, reconnue dans son domaine. Donc,
ouais, c'est ça.
C'est pas ma faute.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est dur parce que quand on a tout fait, et que finalement, c'est presque notre dossier qui va être après utilisé pour les autres, hein.
Ça peut être un peu frustrant. Après, on se relève. Et
oui,
derrière,
oui.
T'es là
4 ans
après,
j'étais déjà contente d'être passée devant tous mes concurrents, de toute façon.
Écoute, super transition. La création, c'est plein de premières fois. L'entrepreneuriat, c'est des premières fois également permanentes. Je te propose. T'as vu, on aime bien les musiques.
Ouais.
Premier apprentissage.
Je crois que c'était dans ma première boîte en Argentine, où tout était ouvert pour un deal. Et le client a dit non. Enfin, on n'a rien dit. Fini par dire non.
3 ans après, on a compris que ça devait vouloir dire non.
À force de leur celui, finalement, il nous a dit non. Et il n'avait pas négocié le prix, on avait tout validé, et j'ai compris que ça se terminait pas forcément par une négociation de prix quand on était dans une culture différente. Donc j'ai compris que là, j'avais plus qu'à apprendre du commerce. Je repartais un peu de zéro à l'autre bout du monde. Je pense que ça a changé mon cycle de vente, même en revenant en France. C'est-à-dire que c'était en Argentine, il y avait l'orgueil un peu argentin de se dire, je vais pas dire que j'ai pas l'argent pour faire le projet, je vais pas négocier le prix, alors que les Français ont besoin de cette négociation à la fin. Ça fait partie des signes
d'intérêt.
D'intérêt, et ils en ont besoin. Hein. Et donc, je pense que ça m'a pas mal appris, ça.
Je reste sur le prix parce que moi, je me souviens de sur ma toute première boîte, un des tout premiers deals avec un très très grand groupe, donc t'es fier, t'as la référence, t'as envie de le signer, et qui nous dit le projet est super, ce que vous nous proposez est super, on va le faire, par contre ce sera avec un budget divisé par 2. Du coup on rediscute, on dit très bien, on va du coup réduire un peu la voilure du projet, de ce qu'on va faire. Et la réponse était non, le même projet, le budget divisé par 2. Et sinon, vous ne bosserez jamais avec ce très grand groupe. Bon, on a dit non, mais c'est pas facile.
Ouais, mais justement, cet apprentissage m'a alors déjà appris à avoir le juste prix, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que Et oui, non, je ferais pas la même chose avec la moitié du budget, sauf s'il y a une compensation. C'est-à-dire que, ok, mais vous allez parler de moi. Hein, puis vous allez... puis il va y en avoir d'autres, des clients comme vous, grâce à vous. C'est-à-dire que tout se négocie dans ces cas-là. Mais les Argentins, ils te laissent pas le choix. Hein, ils te disent pas moitié prix.
On est dans les premières fois, premier renoncement.
Je sais pas si j'en ai des renoncements. Je renonce jamais. Si, sûrement. Mais je me considère pas comme un renoncement.
Et on les oublie.
C'est ça, c'est-à-dire que non, je renonce pas. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, même si ça marche pas. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout de tout. Je suis un peu têtu pour ça, je pense.
Premier coup de culot.
Je pense que c'est quand sur les slides du début, je mettais toutes mes photos de copines. J'avais pas de salarié.
Comme si c'était des clients, ouais. Non, comme si c'était des salariés.
J'ai pas de salarié, mais bah après cet apprentissage de t'es trop petite, parce que du coup j'avais toutes mes copines sur des slides.
Elle est très proche de ses salariés, dis donc.
J'essayais de trouver copines, beaux-frères et tout. J'avais des slides remplis de visages qui n'existaient pas. C'était mes premiers coups de culot parce que je les assumais vraiment. J'y croyais quand je les présentais face aux clients.
J'adore. Premier salaire.
Mon premier salaire à moi.
Je veux pas
un
prix.
Avec ma boîte.
Ouais, je veux pas un prix. Enfin, tu peux en donner un, mais au bout de combien de temps?
Ah, au bout de 2 ans. J'ai investi 2 ans. Au bout de 2 ans, premier salaire. Et parce que j'étais aussi en facturation, c'est-à-dire que je vendais, mais je faisais. Et donc, en fonction de ce que je faisais en facture client, du coup, j'ai pu me payer au bout de 2 ans.
Et puis, à un moment, de toute façon, il faut manger. Enfin,
oui, c'est ça.
Mais j'ai renoncé à des... On ne fait pas que pour la gloire. Et...
Non. Et c'est vrai que j'ai renoncé à des gros salaires quand j'ai monté WeDoCom. J'avais plus du tout le même train de vie, mais une liberté mentale beaucoup plus intéressante au quotidien.
Première grosse erreur.
C'est pas la claque.
Non.
J'ai pris des salariés en les trouvant moi-même. Et ça, c'est une grosse erreur parce que ça m'a fait perdre du temps, de l'énergie, parce que j'y croyais et j'étais déçue. Et c'était une grosse erreur que de m'en charger moi-même du recrutement.
Il faut savoir se faire accompagner.
Ah oui, là-dessus, j'ai pas de doute.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Caroline, tu peux fermer les yeux, t'allonger dans les studios et replonger quelques années en arrière. La petite fille que tu étais, c'était qui?
Moi, j'étais une petite fille très responsable très tôt. Parce que dans les aînés d'une famille nombreuse. Et... quand je voulais faire quelque chose, il fallait que tout le monde vienne, donc il fallait embarquer tout le monde. J'étais leader très rapidement, du coup.
Ça forge.
Ouais, ça forge, ouais. Tout de suite assez responsable. J'avais besoin de responsabilité pour me sentir bien, je crois.
Des fois, avec certains entrepreneurs, on se rappelle nos premières casquettes d'entrepreneurs dans la cour de l'école où certains vendaient des cartes Dragon Ball Z, d'autres copiaient des CD, les revendaient. T'avais un petit business quand t'étais jeune?
Pas aussitôt, je crois pas. Si. J'avais fait un club qui s'appelait le CPN. Le club protecteur de la nature. Ah, j'en ai honte.
Pourquoi?
Je sais pas.
C'est encore d'actualité.
Ah ouais, on allait sur les plages ramasser les déchets. Et l'idée, c'était s'acheter un cheval après avec une copine.
Et vous revendiez les déchets? C'était l'abonnement?
Je sais pas, on avait gagné... on avait fait une pièce de théâtre aussi. On avait invité tous nos profs, je crois. Ils payaient en boîte de conserve et après on le donnait à des associations. Enfin, je sais plus, c'était comme ça. C'était mes premiers business parce que l'idée c'était quand même d'acheter un cheval derrière.
On reparlera, je crois, du sujet cheval. Mais je crois oui, effectivement que t'es une grande passionnée. Comment
s'inspirer, respirer.
Comment tu trouves l'inspiration?
J'ai besoin de vide pour l'inspiration. J'ai besoin de me dire que si je perds tout, c'est pas grave. Et j'ai pas peur de ça. Et du coup, je me mets dans des situations de à risque pour m'inspirer, je crois.
Ça veut dire quoi ?
Une situation à risque, ça veut dire pas forcément. Ça peut être un projet où je sais pas du tout de quoi ça traite. Je connais rien, mais j'avance. Je fais un pas en avant et du coup, il faut que je découvre les choses petit à petit. Je me suis un peu faite toute seule. Donc du coup, ça me permet de me remettre dans une situation où de toute façon, si je me loupe, je connaissais rien au départ. Donc ça va m'apprendre des choses. Mais à chaque fois, c'est un risque.
Tu disais, je me suis faite toute seule.
Ouais, j'ai pas vraiment fait d'études. J'ai fait une alternance, un BTS en alternance. Et l'école de commerce, ça a été mes premiers business à 20 ans.
On sert quoi ? Pas de réseau ?
Pas de réseau.
Pas d'entrepreneur autour de toi ?
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai fui ça, ce que je pouvais.
Ouais.
Et j'ai fui ça parce que j'avais besoin d'être indépendante sur tout. Et surtout pas avec ce que je connaissais déjà, quoi. C'était...
Aller à l'inconnu et prendre.
Ouais, je traversais le monde et je parlais pas espagnol et j'ai monté mon premier business en Argentine.
On peut tout faire. Comment tu trouves les temps de respiration qui sont importants aussi et qu'on oublie parfois trop souvent?
Ben moi, ils sont un peu indispensables parce que je suis pas parisienne d'origine, donc je suis pas très urbaine en fait. Enfin, je crois pas. J'ai vécu dans pas mal de capitales, donc mais pas.
Souvent, c'est ceux qui disent ça qui connaissent tous les bons bars, tous les bons restos plus que les Parisiens.
Ouais, je sais pas. Non, je sais. Non, heureusement, c'est pas moi qui choisis parce que je suis pas bonne là-dedans. Non, mais du coup, je me suis acheté une maison à côté de Fontainebleau, dans la forêt. J'ai acheté des chevaux. Et j'ai passé pas mal de week-ends à ramasser les crottins pour tout.
Pour t'acheter un cheval.
Pour m'acheter un cheval, c'était à l'envers, justement. C'était un peu un rêve d'enfant. Et ça m'aide à déconnecter parce que les chevaux, en fait, ils te laissent pas le choix. On est obligé de s'en occuper. Ils te demandent pas si ça va ou pas. Et le matin, ils ont faim. On est obligé de déconnecter. Et j'ai vraiment provoqué ça pour avoir ce moment le week-end qui me permet d'absorber le stress de la semaine.
On avait beaucoup parlé avec Georges Lotigier de Veid dans 40 nuances de Next. Du rapport homme-cheval, lui aussi, c'est un passionné. T'évoquais rapidement le fait qu'il fallait lâcher pour être en connexion. Mmh. Tu vois un parallèle de la vie de l'entrepreneur que tu es avec ce moment que tu passes avec ton cheval?
Ouais, un cheval, il a pas forcément tous les jours la même humeur, comme nous, hein.
Ouais.
Et il faut prendre le temps d'essayer de voir où est-ce qu'il en est pour pouvoir le faire après travailler ou passer un bon moment avec lui. Et puis ça a quand même pas mal de kilos, enfin c'est minimum 300 kilos un cheval, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est un peu comme le marché. Finalement, le marché, on peut, même si on a des idées, ça veut pas dire que le marché les accueille. Ouais. Et il faut prendre le temps de l'écouter, le marché, pour pouvoir ensuite aller dans la bonne direction. Mais je pense que c'est un peu la même chose avec un cheval.
Donc le cheval, gros moment de respiration. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dans lesquels tu arrives à t'évader?
J'aime bien lire.
Titre reco.
Je suis en train de lire le journal de Jane Birkin. Je trouve que c'est assez agréable d'être dans son quotidien et de se dire que bah, elle aussi, hein, elle en a fait.
Elle en a vécu.
Ouais, ouais, elle en a ouais. Vécu et comme elle parle, enfin, elle est quand même à cœur ouvert dans ce qu'elle écrit. Ça rassure un petit peu. Moi, je crois que ça me fait du bien. Dernièrement, c'est ça.
C'est quoi qui rassure?
Se dire qu'on n'est pas tout seul à se mettre dans des situations ou avoir un caractère qui on sent moins seul dans peut-être un état d'esprit, une façon de voir la vie, c'est peut-être ça.
À travers l'ouvrage dans lequel tu étais plongée, c'est qui Jane Birkin ?
À travers l'ouvrage, c'est une personne qui. Attends, je sais pas si j'ai trop envie de.
Ok, mais on peut. T'as le droit autant de joker que tu veux. Hein. C'est ton 40 c'est... nuances de.
Ouais,
de
je veux dire, si elle m'écoute après.
Écoute, tu lis son livre, elle peut bien écouter ton podcast.
Ouais, je sais pas.
Du coup, donc, grosse reco sur ce livre. D'autres reco, films, expos, docu, spectacles que t'aimerais partager? Ce moment où moi je m'inspire aussi.
Ah oui, ok. Non, mais moi je pense que je passe beaucoup de temps avec la nature, ça m'inspire plus. La mer.
Tellement.
La mer. Je suis bretonne alors. J'ai passé beaucoup de temps sur un bateau. Quel coin j'ai le plus vu en Bretagne, le plus vécu en Bretagne, je crois que c'est les îles des Glénans, depuis toute petite.
Magnifique.
Ouais.
Moi, je suis la team Belle-Île en mer, mais
ouais,
c'est très beau aussi.
J'ai beaucoup fait Belle-Île aussi.
Je te propose de passer, parce que tu parlais de la Bretagne, on est à Paris, mais t'es à Fontainebleau et puis t'as fait le tour du monde. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la France. Attention.
Française, français.
Caroline Courtel, le résultat des urnes est sans appel, à l'unanimité, à savoir moi, je te fais présidente de notre pays. Qu'aimerais-tu changer ?
Alors changer, je sais pas si changer, continuer à faire peut-être. Si j'étais présidente, je pense que j'investirais énormément dans l'éducation, dans les enfants, pour qu'ils aient tous les possibilités d'avoir ce qu'il faut pour l'avenir. Et puis, c'est un peu à travers eux, de toute façon, que le monde va se remettre de pied. Donc,
l'égalité, elle se joue là.
Je pense que l'avenir, c'est les enfants. Ouais. Il faut avoir confiance dans cette génération qui arrive.
On va parler, je crois que tu as au moins une fille.
Oui, ouais.
Écoute, c'est une super transition pour ce moment.
Wow.
C'est un coup de cravache, ça tombe bien. C'est le moment, la claque.
Alors la claque, ça a été quand j'ai mis ma fille de 4 ans sur un cheval de 4 ans non débourré.
On rappelle ce que c'est non débourré, parce que là, j'aurais pu faire comme si je savais. en fait, tu me l'as dit juste avant.
Non débourré, ça veut dire qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'être monté, en tout cas, pas vraiment à
pas
plusieurs
dressé,
reprises.
Ouais.
Quoi, vraiment pas dressé. C'était un jeune poney que j'ai acheté pour elle et j'ai voulu partir en balade. Sauf qu'il y a eu un moment où un chien est apparu et le poney a eu peur. Elle est tombée au milieu de la route. Et là, j'ai compris que je pouvais être vulnérable, en fait, que j'étais pas juste. Et j'ai compris que fallait pas tout mettre rapidement pour une envie, un besoin, tout mettre rapidement sans prendre le temps pour chacun d'être au moment où il faut.
Il faut questionner ses envies et ses besoins.
Surtout prendre le temps.
Ouais.
J'ai tendance à... j'ai compris ça de mon caractère à un moment donné. Hein, que je me suis dit, ils s'habitueront, enfin je m'habituerai moi à moi-même. Mais faut surtout prendre le temps, être patient quand on veut bien faire les choses et pas aller trop vite. C'est un peu mon...
On dit que quand on tombe de cheval, il faut remonter vite.
Ouais, ouais.
Qu'en dis-tu?
Est-ce qu'il faut remonter vite? Je sais pas, moi j'ai toujours appris ça, alors je le fais. ça me paraît sensé. Non, je sais pas, je pense qu'il faut rien s'obliger, de toute façon. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie, hein, c'est pas...
Ouais, elle a pu remonter, ta fille?
Ah ouais. Ouais. J'ai acheté un autre cheval plus vieux. Et ouais, ouais, elle est remontée.
Et dressée.
Et dressée, ouais.
Sur... habituellement, j'aime pas trop aller là-dessus, mais on en a parlé un peu en off avant de lancer les caméras et l'enregistrement. Mais j'aime pas forcément trop m'étendre avec les sistas sur leur rôle de mère slash leur rôle d'entrepreneur. Mais du coup, c'est vrai que on discutait d'une anecdote où je t'expliquais que on a une jeune fille en bas âge, nous, on est associés et en couple aussi. Et quand, faute de garde, on chacun ramène sa fille en rendez-vous, on se dit, c'est un papa exemplaire. Là où, pour une femme, on se dit, est-ce qu'elle sait s'organiser? Et l'autre jour, on a lancé une fintech, Irma, la Vivatech, et j'ai reçu plein de félicitations. Elle a reçu un message. Lui disant globalement contrairement aux commentaires, je me permets de pas vous trouver inspirante. Vous pouvez pas avoir des boîtes et des enfants sans que quelque chose passe à la trappe. Et
moi je pense qu'au contraire, ça démultiplie la créativité d'avoir des enfants, et les enfants ils sont contents. En tout cas, ma fille, elle a jamais joué à la poupée, mais quand elle arrivait quelque part, elle ouvrait un ordinateur un peu factice et elle disait je travaille, et c'était comme ça qu'elle jouait. Elle jouait à travailler beaucoup. Voilà, c'est ce que je lui ai donné. Moi, ma mère, elle était plutôt avec des enfants, donc je jouais à la poupée. Je me suis beaucoup culpabilisée au démarrage de travailler parce que ma mère était mère au foyer, mais en fait, au contraire, ils nous regardent et ça leur donne envie, et ça va peut-être être plus facile pour elles d'aller bosser parce
qu'elle le voit pas comme une contrainte.
Le voit, mais ouais. Pas du tout. Elle est super contente de venir au bureau. Elle a son cahier au bureau. Et non, je pense que.
Est-ce que elle sait ce que tu fais?
Elle me demande de temps en temps.
C'est toujours drôle d'avoir les pitchs des boîtes vues par les enfants.
Ah, je crois qu'elle comprend mieux ce que fait son père, mais...
Tu lui dis quoi?
Qu'est-ce qu'elle dirait là? Je sais pas, maman, elle vire les gens, je crois.
Je sais. Parce pas. Parce que t'as eu un épisode pas sympa,
ouais,
dont t'as beaucoup
m'entendre.
Parlé.
J'ai dû être avec... lui faire ressentir des émotions, pas forcément... mais...
Va falloir compléter le pitch.
C'est un peu dur là. Non, je sais pas trop ce qu'elle dirait là.
Ouais, écoute, ouais. On attend quelques années.
Ouais, il faudra lui demander. Ouais, ça doit être. Ouais, c'est plutôt drôle de lui demander maintenant, mon avis. Ouais. Je lui demanderai ce soir.
Bah, tu me diras après coup. Je te propose, si tu veux bien, de conclure avec ta carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Le monde a les oreilles tendues, dressées derrière les écouteurs.
Alors, carte blanche, moi, je voulais parler de la surenchère des profils. Je trouve que c'est très dur quand on a cette croissance organique sans levée de fonds, sans investissement américain ou autre, de promouvoir nos offres d'emploi avec des salaires qui sont pas les salaires qui sont proposés en face dans les sociétés qui doivent investir énormément dans le people et qui investissent dans le people par levée de fonds. Ça fait des générations, enfin des, je sais pas, non, je vais peut-être pas parler comme ça, mais en tout cas
non,
ça fait
des généralités.
Ouais, ouais, ça fait des profils qui sont durs à écouter en entretien quand on a bossé pour leur pour avoir une place pour eux. C'est pas pour avoir une place pour eux, mais on a besoin d'eux, et du coup on est dans des situations qui je trouve un peu difficiles par rapport à ce qu'on peut offrir comme travail, mais on voilà, je trouve que c'était ça que je voulais,
ouais, ouais, dans, et dans,
je voulais parler
dans cette compète. On jouait avec quelles armes du coup?
Intellectuel, hein, c'est du coup. Nous, on propose des postes avec une vraie richesse dans le quotidien, parce qu'on est dans des sujets stratégiques et en même temps pas trop, parce qu'on n'est pas, on fait de la com interne, donc on n'est pas dans des sujets de production ou de business qui peuvent être très très stressants, mais en même temps c'est stratégique pour les sociétés et très intéressant de se plonger dans l'univers de chaque structure, de chaque taille. On voit plein de choses.
Intellectuellement, c'est riche.
C'est super agréable. Ouais.
Caroline, un immense merci pour ces échanges. C'était, même pour moi, tu vois, intellectuellement, c'est très riche. Donc, je fais tout ça bénévolement. et j'en ressors grandi. Merci à toi. Merci à Ellie de nous avoir mis en relation.
Vrai grand merci.
Lui. Et merci à vous tous et toutes qui nous suivez chaque semaine. J'ai dire chaque jour, mais on n'a pas du contenu tous les jours, mais en tout cas, chaque semaine sur 40 nuances de Next et 40 nuances de Sista.